Salut Ludo.
Bonjour Joaquin, salut à tous.
Difficile de ne pas en parler, on est loin de la douce écriture de la semaine dernière, de ta dernière chronique. Tu souhaites faire le point aujourd'hui sur l'accord du Mercosur, contre lequel une partie des agriculteurs manifeste, ça dure. Un traité ancien, long et politiquement explosif.
Oui, les négociations entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, donc Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, ont débuté en 1999. Donc elles se sont installées sur 26 ans, faisant de cet accord l'un des plus longs et des plus complexes jamais négociés par l'UE. Alors pourquoi une telle durée? En fait parce que l'agriculture, c'est un secteur ultra sensible en Europe, qui a toujours constitué le principal point de friction, notamment face à la puissance agro-exportatrice sud-américaine. Et après un premier accord politique en 2019, le dossier a été gelé, puis renégocié, notamment pour intégrer des engagements climatiques et des clauses de sauvegarde. La semaine dernière, la Commission européenne a obtenu l'accord d'une majorité qualifiée des États membres pour signer le texte, donc, malgré l'opposition ferme de plusieurs pays, dont la France.
Un poids commercial réel, mais souvent surestimé par ses partisans.
Oui, parce que sur le papier, l'accord UE-Mercosur concerne un marché de plus de 700 millions de consommateurs. Donc ça fait près de 20% du PIB mondial. Pourtant, les échanges actuels, en fait, restent modestes. Le Mercosur, lui, ne représente que 2,1% des exportations européennes. Donc ça, c'est loin derrière la Turquie ou la Norvège, ou même les États-Unis par exemple. L'UE est en revanche le deuxième partenaire commercial du Mercosur, en fait, derrière la Chine. L'accord vise en fait à supprimer progressivement 91% des droits de douane du côté sud-américain et 92% du côté européen, avec des gains attendus surtout pour l'industrie européenne. Et la Commission européenne évoque une hausse du PIB européen de 0,05% d'ici 2040. Donc en fait, c'est un chiffre jugé faible et même incertain par de nombreux économistes. En revanche, les entreprises européennes économiseraient donc en droits de douane et accéderaient plus facilement au marché public sud-américain.
Le PIB, le produit intérieur brut.
Oui.
Cet accord, c'est avant tout une dimension stratégique et géopolitique assumée donc de la Commission.
Et oui, dans ces temps troubles, la géopolitique c'est important et au-delà du commerce, l'accord est présenté par Bruxelles comme un outil de souveraineté stratégique, sécurisation de l'accès à des matières premières critiques, donc comme le lithium, le cuivre et les minerais essentiels à la transition énergétique, réduction de la dépendance à la Chine, affirmation d'un multilatéralisme fondé sur des règles face au protectionnisme américain et au rapport de force géopolitique. Pour ses défenseurs, l'accord en fait est un signal fort. L'UE reste une puissance commerciale ouverte et capable de nouer des alliances durables avec le Sud global.
Et donc le secteur agricole reste le cœur de la contestation avec des filières clairement menacées.
Oui, c'est sur l'agriculture que se cristallisent les oppositions. Les pays du Mercosur disposent d'un avantage compétitif majeur. En fait, le coût de production sont plus faibles, les normes environnementales et sanitaires sont moins contraignantes et les exploitations sont de grande taille. Les études en fait évoquent une baisse possible de 1 à 1,2% de la production européenne de bœuf et d'ovins, de moutons. Une pression accrue sur le sucre, la volaille et aussi sur certaines grandes cultures. Alors même si les volumes importés sont strictement contingentés, 99 000 tonnes de bœuf, soit 1,5% de la production européenne. Ces chiffres prennent une dimension symbolique forte dans des filières qui sont déjà très fragilisées.
Et inversement, des gagnants agricoles aussi.
Exactement, toutes les agricultures européennes ne seraient pas perdantes en fait. Les produits laitiers et les fromages par exemple seraient plutôt gagnants avec la protection de 344 indications géographiques. Les vins et les spiritueux dont vous avez entendu parler seraient gagnants aussi avec une baisse des droits de douane qui sont déjà élevés jusqu'à 27%. Et le cognac qui dans une période de crise, ça lui ferait un nouveau débouché à un moment critique pour la filière.
Pour l'environnement et la santé, les garanties sont jugées insuffisantes par beaucoup.
Exactement, les critiques environnementales en fait sont majeures. Il y aurait jusqu'à 700 000 hectares de déforestation supplémentaire selon une étude française. Il y a une hausse potentielle de 500 millions de tonnes de CO2 sur le long terme. Estimation contestée d'ailleurs par la Commission. S'ajoutent ensuite les inquiétudes sanitaires. Usage de pesticides interdits en Europe, traçabilité imparfaite des viandes, contrôle jugé encore insuffisant face au volume commercialisé. Malgré une augmentation quand même, selon les accords, une augmentation de 50% de contrôle dans les pays du Mercosur et de 33% dans l'UE. La France a tenté aussi de répondre par un arrêté suspendant l'importation de produits contenant 5 pesticides interdits. Mais cette mesure en fait est largement considérée comme symbolique car elle ne concerne qu'une fraction de substances utilisées et n'affecte pas les flux majeurs, notamment donc le soja pour l'alimentation animale.
Qu'est-ce que cela, Ludo, représente concrètement pour le consommateur?
Alors, est-ce que 99 000 tonnes, c'est dur à évaluer. En fait, à l'échelle individuelle, on peut parler d'impact, mais comme limité, je dirais. Pour le bœuf, les quotas représentent l'équivalent d'un steak par an et par consommateur européen.
Ça, alors, c'est parlant.
Ça, c'est parlant. Aujourd'hui, en fait, pour être clair, on importe 26% de notre consommation de viande bovine, vous compris, de Pologne, de Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, Espagne essentiellement. Et avec le Mercosur, du coup, pas de baisse massive des prix alimentaires attendus. En revanche, il y aura une pression indirecte sur les standards agricoles et sur la perception qualitative de l'origine des produits. Le débat dépasse donc en fait largement à la question du panier de course. Il touche à la souveraineté alimentaire, aux normes de production et au modèle agricole européen.
L'accord peut-il encore ne pas être appliqué?
Oui, ce qu'on entend un peu de tout, à des fois c'est dur de faire la part des choses.
Ouais.
En fait, il y a plusieurs scénarios, hein, de manière très claire, qui restent ouverts. Il y en a un qui, en fait, c'est le rejet par le Parlement européen, parce que le Parlement, lui, est très divisé. Donc, il y a une opposition majoritaire en février qui mettrait fin définitivement à ce traité.
Donc ça, c'est une possibilité.
Ça, c'est une possibilité en février prochain. Ensuite, il peut y avoir la saisine de la Cour de justice de l'UE. Ça, c'est une contestation juridique sur la légalité de certaines clauses qui pourraient suspendre le processus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et il y a aussi des clauses de suspension ultérieure qui existent en cas de non-respect de l'accord de Paris ou de déforestation massive. Le traité pourrait alors être suspendu unilatéralement.
Alors, en conclusion.
Alors, l'accord, on peut vous dire, hein, l'accord UE-Mercosur n'est ni le raz-de-marée commercial promis par ses partisans. Son impact économique global est limité, mais ses implications, en fait, symboliques, agricoles et environnementales sont majeures. En fait, ça révèle quoi? Ça révèle une fracture profonde entre une Europe industrielle, qui elle est gagnante avec cet accord-là, et une Europe aussi géopolitique en quête de débouchés et de ressources. Et en fait, en face, il y a l'Europe agricole, elle, qui est inquiète pour sa survie, son modèle et sa légitimité. Le sentiment que l'agriculture, base de la société, en fait, sert encore une fois de plus de monnaie d'échange à industrie, sentiment d'une souveraineté alimentaire abandonnée, autrefois défendue au plus haut niveau de l'État. Et pourtant essentielle donc à l'avenir, cette fameuse souveraineté. Et c'est bien le consommateur, au cœur de la guerre des prix des supermarchés, hein, qui doit réagir également avec une question éternelle en fait. Pourquoi
toujours la même.
On en revient toujours, c'est ça qui est un peu frustrant parfois. Pourquoi ne pas consommer ce que nous produisons tout simplement? Et pourquoi ne pas faire attention à notre alimentation, à notre agriculture et enfin donc à nos paysans?
À philosopher, forcément.
Ouais, et agir aussi, quand même, s'il vous plaît.
Merci, Ludo.
Bonne journée. Ciao.